Vivre FM, la vie des associations, podcast.
La vie des associations donne aujourd'hui la parole à l'association La Clé de Phare, représentée par Isabelle et Pascal Ponty. Bonjour messieurs dames.
Bonjour, bonjour Benjamin.
Merci d'être des nôtres, ça nous fait plaisir. Ça nous fait d'autant plus plaisir qu'on a très envie d'en savoir davantage sur La Clé de Phare. Qu'est-ce que c'est que La Clé de Phare?
Alors l'association La Clé de Phare, c'est une association bretonne qui vise en fait à l'expression artistique des jeunes en situation de handicap, présenter leur capacité artistique. Et donc l'instigatrice de cette association, Hélène Lévois, avait l'idée de mixer deux publics qu'on mixe rarement et qui se rencontrent peu, qui est la musique classique, donc avec des musiciens classiques qui sont sur scène, avec les jeunes qui eux font la partie théâtrale du spectacle.
Et qui sont des enfants qui sont touchés par le handicap intellectuel.
C'est des enfants touchés par le handicap intellectuel et c'est un public qui va de 12 à 30 ans. Il y a beaucoup d'adultes en fait.
Alors on parlera de tout ça avec Hélène Lievois, qui nous rejoindra par téléphone tout à l'heure. Mais je sais que vous avez une belle actualité, une actualité qui concerne le dimanche 8 mai. Qu'est-ce qui va se passer le dimanche 8 mai?
Alors le dimanche 8 mai, tous les auditeurs et tout le monde est invité à venir voir donc un spectacle qui s'appelle L'histoire du soldat. C'est autour de l'histoire du soldat qui a été écrit, la musique a été écrite par Stravinsky. Et ce spectacle musical et scénique est donné à l'IPC de Chatou, l'Institut de pédagogie curative de Chatou, c'est un IME. À 15h, il y a deux représentations, il y en a une à 15h. Et il y en a une à 18h.
On va reparler de tout ça, évidemment, et on va revenir sur ça afin que tous ceux qui sont intéressés puissent noter tout ça sur le papier et savoir exactement dans quelles conditions ils pourront venir vous voir. Et j'espère qu'ils seront nombreux. Mais on va revenir justement sur cette histoire du soldat de Stravinsky. C'est le quatrième spectacle que La Clé de Phare donne.
Oui, tout à fait. C'est le quatrième spectacle que La Clé de Phare donne ici en région parisienne. Et l'année dernière, les auditeurs avaient eu l'occasion d'entendre Hélène parler directement du spectacle qui était...
Tableaux d'une exposition de Moussorgski.
Voilà, c'est ça, les tableaux d'une exposition de Moussorgski.
Moi, je voudrais savoir exactement comment ça se passe. On en parlera peut-être tout à l'heure avec Hélène, mais vous le dites, ce sont deux univers qui se rencontrent peu. La musique classique et le handicap intellectuel en particulier peut-être même. Pourquoi ça? On sait, vous avez un petit recul maintenant. Ça fait quatre spectacles que vous montez, vous, Hélène Lievois et tous les responsables de La Clé de Phare. À quoi ça tient, ça?
Alors, je pense qu'il y a des facteurs multiples. Je pense qu'une des raisons, c'est le manque de contact, le peu de propositions qui est fait dans ce sens aux jeunes. Et surtout, il n'est fait pratiquement aucune proposition de spectacle auxquels ils pourraient participer, dans lesquels ils seraient acteurs et qui leur donnerait aussi l'opportunité d'être en lien avec la musique, de l'entendre et du coup de l'apprécier, d'avoir envie d'en réentendre et de rentrer dans cet univers.
Ça veut dire qu'au départ, les personnes handicapées intellectuelles ne sont pas confrontées à la musique classique, on leur en donne peu à écouter, les parents ne savent pas exactement par quel bout prendre la chose, d'une part. D'autre part, peut-être les musiciens classiques trouvent compliqué d'avoir affaire au handicap mental qu'ils ne connaissent pas. On peut pas leur en vouloir forcément, mais ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il y ait plus de ponts,
Oui, c'est ça. C'est d'ailleurs un peu c'est l'idée du projet, c'est effectivement de donner à chacun l'opportunité de rencontrer l'autre et bien sûr aussi aux musiciens professionnels classiques qui sont la plupart du temps un peu ébahis et très contents en fait de cet échange.
Finalement, quand ils vont à la rencontre, quand on fait en sorte qu'ils aillent à la rencontre des personnes handicapées intellectuelles, ils se rendent compte très vite que finalement il y a un potentiel sacrément plus important que celui qu'ils avaient pu soupçonner, si même ils en soupçonnaient un.
Voilà, c'est ça, le potentiel est plus important et le plaisir est réel. C'est-à-dire les jeunes prennent cette musique avec beaucoup de plaisir et transmettent ça et le retransmettent et en plus ils apprécient. En fait, dans cette association, dans ces spectacles, les musiciens sont dans la salle, dans le spectacle et il y a un échange constant entre les jeunes sur la scène et les musiciens et ça c'est vraiment quelque chose de très riche pour les uns et pour les autres.
Alors vous en parlez d'autant mieux que vous êtes concernée à double titre. Vous êtes, on peut dire, l'organisatrice de ce qui peut se passer en région parisienne. Vous êtes un petit peu une ambassadrice de La Clé de Phare du côté de Paris, du côté de l'Île-de-France en tous les cas, c'est bien ça?
Oui, c'est ça, moi je fais le relais, oui.
Et puis vous êtes concernée à double titre, vous et votre époux Pascal, parce que vous avez dans la troupe un musicien, un enfant qui est à la fois musicien et comédien.
Voilà. c'est ça. C'est un jeune qui fait du piano et du clavier et qui fait ça depuis une dizaine d'années et qui apprécie en fait tous les types de musique. Lui, il a une nature aussi qui le porte facilement éventuellement vers la musique classique, le jazz, enfin voilà, c'était son tempérament. Et quand on a eu l'opportunité de trouver cette association, on s'est dit qu'on avait beaucoup de chance. Et c'est pour ça que j'ai fait, enfin, c'est à cette occasion-là que j'ai fait le relais entre Vannes et Paris. Et que comme moi-même, j'étais président d'une association de parents d'élèves, je suis allée voir mes amis, les autres parents, et puis j'ai parlé de cette venue de la clé de phare et du spectacle qui à l'époque avait été monté, qui était L'enfant et les sortilèges.
Comment ça s'est fait, cette rencontre avec la musique? Je parle de la musique plus globalement avec votre gamin. On va l'appeler par son prénom, comment il s'appelle?
Alexandre.
Alors Alexandre, comment ça s'est fait la rencontre avec la musique classique, avec toutes les musiques visiblement, parce qu'il est curieux cet enfant-là?
Ah oui, vas-y.
Il était attiré par la musique depuis son plus jeune âge, hein, depuis tout petit. Ouais. C'est l'un des rares très petits enfants qui a écouté la flûte enchantée du début à la fin.
Et qui était enchanté aussi, enchanté de la flûte.
Parfaitement enchanté.
En étant parfaitement enchanté. Et puis petit à petit, ensuite, il a commencé à travailler le piano avec l'aide de professeurs qui sont vraiment intéressé à comment amener un jeune homme comme lui à...
C'est ça, parce que c'est compliqué, il faut bien le dire. Hein, on va pas non plus jeter la pierre à ces musiciens qui n'osent pas forcément approcher le handicap intellectuel. C'est que c'est quand même compliqué, il y a des choses qu'il est plus difficile de comprendre hein, quand on est une personne handicapée intellectuelle. Et donc, faut se mettre à leur place. Et en l'occurrence, vous avez trouvé le bon prof.
Voilà, c'est ça.
On a trouvé les bons profs, plusieurs personnes qui ont su contourner les handicaps du solfège, de la mathématique de la musique, entre guillemets, et changer plus dans l'intuition, dans l'émotion.
On va reparler de tout ça, si vous le voulez bien. On a le temps encore de parler et de l'association, et pourquoi pas des progrès d'Alexandre.
Et des autres.
Évidemment.
C'est une troupe.
Évidemment, c'est une troupe. On n'a pas oublié ça. On va le faire après une pause musicale, justement.
Jusqu'à 11h, la vie des associations sur Vivre FM.
La vie des associations a décidé de tendre ses micros en direction de la clé de phare, représentée en studio par Isabelle et Pascal Ponty, et au téléphone par Hélène Liévois. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Hélène, vous êtes, tout à l'heure on en parlait avec Pascal et Isabelle qui m'ont dit, elle est l'âme de l'association. Bah oui, parce que vous en êtes la créatrice. Hein. Vous êtes musicothérapeute également.
Oui, tout à fait.
Et puis
oui.
Vous êtes metteuse en scène.
C'est ça.
Ça veut dire que vous avez pas mal de casquettes. Et malgré tout, vous êtes Et malgré tout, vous n'avez pas la grosse tête. Ce qui est bien quand on a plusieurs casquettes, sinon.
Non.
Alors, moi, j'ai l'impression, à entendre Isabelle, Pascal, à vous connaître un petit peu, Hélène, que finalement, la clé de phare, c'est une histoire, j'allais presque dire, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire de rencontre, une histoire artistique, évidemment, mais une histoire de rencontre avec au confluent de plein de choses différentes, c'est-à-dire d'un côté la musique classique, de l'autre les personnes handicapées mentales, parfois même chez les encadrants des personnes handicapées psychiques. Enfin bref, j'ai l'impression que, j'allais dire, tout le monde est là pour que l'aventure soit réussie. Hein.
C'est ça, c'est ce qu'on espère. L'idée, c'était effectivement, comme vous le dites très bien, de croiser des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de se rencontrer, comme les musiciens classiques avec des jeunes qui sont en situation du handicap ou pas, puisqu'on a aussi eu parfois des jeunes qui sont venus grossir la troupe ou qui sont venus donner un coup de main pour faire des décors ou pour faire des vidéos. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de construire quelque chose ensemble en s'enrichissant des différences et en même temps, à un moment donné, surtout, on oublie les différences, on est tous ensemble pour créer quelque chose d'artistique qui met tout le monde en joie et qui nous porte chacun dans la joie de notre quotidien.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer cette association de cette façon-là? Est-ce que vous saviez que finalement ça ferait naître l'enrichissement des uns comme des autres?
Je me doutais pas du tout que ça prendrait une telle ampleur. J'ai été très très bien accueillie au départ quand je suis allée proposer mon premier projet de Pierre et Leloup au conservatoire de Vannes par une équipe de profs et un directeur qui ont été très à l'écoute, qui étaient très intéressés par l'idée. Donc on a monté ils ont monté pour nous un petit orchestre alors que moi j'étais venue demander 3 ou 4 musiciens. Donc ça a été vraiment un beau cadeau de départ. Et de fil en aiguille, l'orchestre a grossi d'année en année. Après on a évolué, on est parti sur des partitions plus difficiles, donc du coup on a aussi cherché des musiciens plus expérimentés, mais c'est vraiment selon les années, selon les projets. Et voilà, l'association a pris une ampleur qu'on n'attendait pas, parce qu'on a eu énormément de public aux premières représentations. On a même été obligé de doubler la séance.
c'est pas mal, ça.
Donc ça c'était vraiment magnifique. Et de fil en aiguille, d'année en année, des personnes se sont proposées, qu'elles soient professionnelles ou amateurs, pour apporter leur grain de sel au projet, que ce soit des musiciens, des danseurs, des encadrants bénévoles, des nouveaux jeunes qui sont arrivés tous les ans pour grossir la troupe ou pour la faire évoluer. Donc j'ai un petit peu l'impression que les choses se sont faites toutes seules. C'est un peu magique, en fait.
Justement, vous m'enlevez presque la question de la bouche, parce que quand on vous entend parler de cette belle aventure qu'est la clé de phare, on dirait que tout ça s'est passé, j'allais dire, c'est rentré comme dans du beurre. Or, finalement, si les musiciens ne rencontraient pas les personnes handicapées intellectuelles, et si les personnes intellectuelles, les handicapées intellectuelles ne rencontraient pas les musiciens, c'est qu'il y avait un problème pour les faire se rencontrer. Comment la magie s'est exercée de telle façon à ce que on en soit là aujourd'hui et que l'aventure soit loin d'être terminée?
Alors, c'est vrai que, bien sûr, je vous dis, il y a un côté facile et magique. Le côté plus difficile, justement, c'est quand même la logistique de tout ça. Parce que, ben voilà, les musiciens ont quand même l'habitude d'évoluer dans un milieu particulier, surtout la musique classique. Hein. Moi, je suis très branchée musique classique, mais je peux déplorer parfois que, voilà, les circuits sont quand même assez cloisonnés et que la musique classique est malheureusement souvent, pas toujours, mais souvent réservée, je vais pas dire à une élite, quand même, c'est un peu cliché,
mais quand même, les conservatoires,
c'est quand même, voilà, ils essayent de s'ouvrir de plus en plus. Mais justement, l'idée de la clé de phare, c'est d'être un petit détonateur aussi pour que certains conservatoires puissent s'ouvrir. C'est ce qui s'est passé à Vannes vraiment de façon très enrichissante pour tout le monde, et ce qui peut se passer certainement ailleurs aussi. Donc ça, on en est très heureux. Je suis pas sûre d'avoir répondu à toutes vos questions.
Qu'on comprenne bien quand même, éventuellement, on y reviendra. Mais qu'on comprenne bien, ces personnes, ces enfants, hein, ces jeunes de 12 à 30 ans qui vous rejoignent, sont donc des enfants handicapés intellectuels. Ils rencontrent des musiciens, et ce sont les musiciens qui leur apprennent la musique, ce sont des musiciens qui les font se joindre à eux. Comment ça marche concrètement?
Alors en fait, c'est surtout une mise dans une ambiance de musique classique où ils sont proches des musiciens qui répètent la musique, mais après, nos jeunes sont essentiellement sur scène. Donc ils évoluent avec cette musique-là, soit en dansant, soit sur des gestes, voilà, sur une présence qui est plus théâtrale, mais éventuellement aussi en musique. Donc c'est vraiment une mise en scène qui est assez variée. Hein. C'est pas ni un spectacle de danse, ni une pièce de théâtre. C'est pour ça qu'on insiste sur le terme de concert-spectacle. On a des musiciens classiques qui sont là avec nous, qui, suivant les années, sont également aussi mis en scène. Ça dépend un petit peu des productions, de la taille du plateau qu'on a, etc. Mais c'est aussi des choses qui arrivent. Et on a avec nous, ce qui est très important, un musicothérapeute percussionniste professionnel qui est mon partenaire depuis le début, un partenaire vraiment très très proche dans ces projets-là. Donc Bernard Leludec, hein, que, pour ne pas le citer, qui est vraiment un homme assez merveilleux, qui vraiment sait faire mettre en valeur les compétences des jeunes, justement. Alors là, au niveau musical, c'est-à-dire qu'il les fait travailler sur les percussions. Et donc, ça donne quelque chose de complètement atypique, puisqu'on allie la musique classique, que ce soit, bon, cette année, c'est Stravinsky, d'autres années, c'était d'autres compositeurs très connus aussi, avec des percussions qui, bien évidemment, sont contemporaines. Et ça donne quelque chose d'assez détonnant et étonnant.
Sans doute.
et qui enrichit autant les musiciens classiques que les jeunes, que tous ceux qui participent au projet, et bien évidemment apportent une richesse nouvelle et un regard différent au public.
Ça veut dire que le spectacle est partout. Ça veut dire que chacun donne de son tempérament, de son potentiel pour faire un vrai spectacle complet, voilà. qu'on ne voit que très rarement.
Voilà, c'est des formules qui sont pas courantes. Hein. Il y en a d'autres, mais c'est vrai que c'est quand même des profils atypiques, ce qui crée aussi des fois des difficultés au niveau de la communication pour faire comprendre qu'est-ce que c'est que ce spectacle, qui crée aussi parfois des difficultés, je sais pas si c'est le sujet d'en parler maintenant, mais par rapport aux partenaires qu'on peut trouver financièrement, qui comprennent pas forcément exactement quels sont les tenants et les aboutissants. Et ben, voilà, on
passe
d'un ministère à l'autre, n'est-ce pas, la santé, la culture, la santé, qui va nous aider? Là est la question.
La question est sacrément posée, effectivement. Voilà. Mais cela dit, il y a des captations vidéo et j'imagine qu'à ce moment-là, quand vous montrez ça à de potentiels partenaires, j'ai l'impression qu'ils craquent.
Il y en a que ça fait craquer, oui. C'est le but.
Ouais, c'est le but. Eh ben, vous, faut surtout pas craquer, hein, Hélène, parce que on a besoin de vous. Combien de gamins, combien de jeunes sur scène le 8 mai là?
Pour le projet, peut-être Isabelle peut m'aider. 7, je crois.
Ils sont 7, oui, plus Anna.
Voilà, 7, voilà, 7 et 2 ou 3 encadrants, 4 avec le perfectionniste.
D'accord.
Sachant qu'on a une jeune qui est en même temps.
Qui est autiste.
Voilà, et stagiaire encadrante, donc elle est un peu à cheval sur les deux.
D'accord. Et combien,
si on la compte deux fois.
Et combien de musiciens pour chapeauter tout ça? Enfin, pour...
Alors, 3 musiciens classiques, donc piano, clarinette et violon, plus notre percussionniste qui fait intervenir presque tous nos jeunes aux percussions aussi. Donc,
et ben, ça va faire du bruit.
À un moment donné.
Et ben, ça va faire du bruit. Ça et du beau bruit. Merci. Mais la musique, c'est, enfin, le bruit, c'est de la musique aussi également, hein. La musique, c'est la vie, on la retrouve partout. Voilà. Des claquements de portes, des battements de cœur, tout ça, c'est de la musique. Hein. Voilà. Hélène Yévois, je vous libère. Je vous remercie infiniment d'avoir été des nôtres. Et puis ça donne envie de venir vous voir, de venir vous voir la clé de phare le 8 mai prochain à Chatou. On redira évidemment l'adresse en temps utile. Merci Hélène.
Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir. À bientôt.
Une pause musicale et on revient juste après pour continuer à parler de la clé de phare sur Vivre FM.
Jusqu'à 11h, la vie des associations sur Vivre FM.
Aujourd'hui, nous sommes avec la clé de phare. C'est l'association qui a les micros de Vivre FM en main et bien en main, représentée par Isabelle et Pascal Ponty. Alors, Isabelle, Pascal, vous précisiez tout à l'heure en antenne, vous avez dit là, à Chatou, ça va être super, ça va être le 8 mai, on le rappelle, hein, à 15h et à 18h, mais on rappellera tout ça tout à l'heure. Il y aura donc à peu près 7 personnes, c'est ça, hein, sur scène. Hein,
7 personnes
gros.
Sur scène,
7 à 8 personnes.
Plus 3 encadrants.
C'est ça, ce qui est déjà pas si mal.
Plus 4 musiciens.
Oui. Ce qui est déjà pas si mal. Mais vous le dites, hein, parfois, selon l'importance des salles, parfois, à Vannes, par exemple, il vous a été donné de faire des spectacles avec une cinquantaine de personnes sur scène.
Oui. Absolument.
Ah ouais, c'est étonnant, ça.
Oui, c'est étonnant.
Ouais, j'imagine qu'il y a des captations vidéo qui en attestent. On peut voir tout ça. Est-ce que vous savez ce que ça apporte à ces enfants, à ces tout jeunes de 12 à 30 ans, qui font partie de la clé de phare et qui, un jour comme ça, montent sur scène et font le spectacle?
C'est clairement un travail qui les tire vers le haut, en fait, sur plusieurs points de vue, plusieurs aspects. C'est le plaisir d'être sur scène, d'être en scène, hein, c'est une fierté, c'est un bonheur, c'est l'idée aussi de faire plaisir au public, hein, qui est pas si fréquente. C'est-à-dire, eux, ils sont à ce moment-là en situation de donner.
Ouais. Et c'est pas si souvent, parce que parfois, même s'ils n'ont pas toujours la conscience des choses, effectivement, parfois, leur handicap leur pose problème et pose problème aux autres. Et donc, bien sûr, on arrive à rire avec eux, bien sûr, on arrive à faire avec eux, mais c'est parfois plus difficile. Or là, ils savent qu'à partir du moment où on va les voir sur scène, ils vont donner du plaisir. Et c'est pas parfois, c'est pas toujours ce qu'on attend d'eux, c'est pas toujours ce qu'ils croient qu'ils peuvent faire, quoi.
Ouais. Et puis ils arrivent sur ces projets, c'est les projets exigeants en qualité, qui sont préparés sur de nombreux mois avec des sessions de répétition, des stages, et donc ça les met dans un travail.
Il y a une vraie rigueur.
De rigueur, de concentration,
et ça,
de
c'est
sérieux,
bon,
de responsabilité.
On pourrait penser justement que la rigueur, ça fait obstacle à leur joie parce que ils peuvent pas le faire tout à fait comme ils le voudraient. Il faut aussi qu'ils passent par des règles et ça leur plaît.
Au contraire, oui, tout à fait. On voit au fil des spectacles qu'en fait il y a une grande responsabilisation qui se fait. Il y a un grand respect qui se met en place. C'est une troupe en fait qui est en train de se faire. Ils se connaissent bien, même s'ils se voient peu puisque il y a l'histoire de la distance, mais ils se connaissent bien et ils apprennent à travailler ensemble, à respecter le temps de l'autre, à se répondre les uns les autres, et d'année en année, on les voit grandir dans cette prise en charge par eux-mêmes du spectacle, en fait. Et ils sont de plus en plus capables de gérer en coulisses les costumes, par exemple, qu'ils vont devoir mettre, de gérer la séquence des tableaux qui sont proposés. Là, il y a une grosse autonomisation, maturation qui se fait.
C'est une vraie aventure humaine, une vraie leçon de vie. D'ailleurs, même pour vous, j'imagine.
Ah,
enfin,
oui.
Je ne sais pas comment vous avez vu la présence d'Alexandre sur scène, comment il vous l'a traduite. Est-ce qu'il vous a traduit ce que vous ressentiez également?
Oui, nous, alors pour lui particulièrement, mais chacun a son évolution.
On rappelle, Alexandre, c'est votre fils. Hein.
Voilà, Alexandre, c'est notre fils. Donc lui, il se plaçait plutôt en termes de musicien, et ça reste très important dans son histoire. Mais il est quelqu'un qui est un peu en retrait, justement, et le piano lui permettait peut-être aussi d'être un peu en retrait. Et au fil de ce travail, de ces spectacles, en fait, il a pris plaisir, il a vu les autres monter sur scène, voir les autres travailler ensemble. Et même s'il veut encore, même s'il continue à faire du piano, il a demandé aussi à être acteur ou lecteur et être sur scène avec les autres.
C'est-à-dire à étendre ses compétences,
étendre,
mine de rien.
C'est ça. Et c'est vrai pour les autres.
C'est pas rien, parce
c'est
que,
énorme.
Effectivement, on peut penser que là encore, quand ils ont des compétences, ils s'y tiennent parce que c'est déjà pas si mal.
Ça.
Ils s'y accrochent, mais pas que.
Voilà.
Ben,
ça va plus loin. Pour tous, en fait. Ils sortent de leur zone de confort. Tous. Ils osent.
Oui, vas-y, Pascal. Oui, là, c'est le cas pour lui, mais il y a aussi tout ce travail sur le déplacement du corps, la gestuelle, la diction aussi, le fait de dire un texte qui soit compréhensible. D'oser porter sa voix, parler fort. Tous ces aspects-là font qu'ils développent des compétences, si on peut dire, où ils sortent de leur zone de confort, comme vient de le dire Isabelle, pour être acteurs. Et on les voit, ils sont des vrais pros maintenant. Hein.
Oui.
C'est une troupe d'acteurs responsables qui veut réussir sa pièce.
Vous-même, vous avez dû faire des répétiteurs, je suppose, des fois.
Nous, on fait tout, nous. On est les petites mains.
Chauffeur, déménageur, répétiteur.
Mais avec quelle joie.
Avec quelle joie. Mais justement, ça fait écho à leur plaisir. Ce qui est quand même frappant, c'est que, parce que c'est quand même exigeant encore, parce qu'elle vient de le dire, mais c'est quand même un gros effort. Ils sont complètement fatigués à la fin d'une journée de répétition. Ils sont HS totalement à la fin des spectacles, mais en fait, ils y viennent en courant. Pour la plupart, voilà. Et donc nous, on suit ça forcément avec.
Il y a un autre aspect pour les parents en lien avec la mixité, c'est que ces enfants porteurs d'un handicap mental, ils sont pas forcément, c'est le hasard qui les a fait se rencontrer. Et les parents que nous on fréquente, les parents des collègues d'Alexandre, donc, ce sont des gens qui peuvent être très différents en termes social, de type de personnes. Et donc ça nous fait aussi nous rencontrer des gens. Plus différents, plus divers.
Et justement, vous avez l'impression qu'ils sont moins sensibles aux différences de classe, comme on pourrait dire aujourd'hui, aux différences de milieu, par exemple.
Ben,
c'est vrai, on dit souvent que les enfants, ils sont moins sensibles que ça, encore que, quand même, malgré tout. Hein, ils ont un œil qui est très très aigu et parfois même un peu cruel, hein, les enfants, les uns avec les autres. Les vôtres, vous avez l'impression que, justement, portés par cette même aventure, ils sont vraiment... Il n'y a pas de différence.
Oui, c'est pas ça le souci. Vraiment, c'est quand même une chance extraordinaire d'avoir cette possibilité d'aller sur scène et d'aller avec d'autres jeunes. C'est rare, c'est très rare, c'est vraiment très rare. Et c'est aussi pour ça que c'est intéressant à voir, parce que peu de spectacles comme ça, encore une fois, sont donnés.
Le projet emporte le.
Entraîne.
Le projet prime, entraîne sur ces différences.
Fait passer toutes les...
Entraîne tout le monde.
Oui. Ouais. Et dans le public, celui qui reçoit, les gens, après le spectacle, en fait, en général, ils sont, le terme est classique, ils sont scotchés. Ils viennent nous voir en disant, ils ne s'y attendaient vraiment pas à ça. Il y a aussi des gens qui viennent par sympathie.
Bien sûr.
Et après, ils disent, je venais par sympathie, mais maintenant, c'est par intérêt. C'était vraiment un spectacle étonnant.
Et les enfants, au-delà justement de la prestation, ils parlent, ils arrivent à en parler, ils sortent aussi de leur... comme vous dites, de leur zone de confort, parce que parfois, parler, ça n'est pas chose si facile.
Non, oui, tout à fait.
Et là, ils savent.
Oui, ils ont.
Ils savent en parler, ils y vont.
Certains, en tout cas, ont effectivement un peu de mal à parler, mais pour cela, en fait, comme Hélène va chercher chacun dans ses capacités et aussi un peu dans son meilleur. Donc, il y en a quelques-uns qui sont amenés à parler sur scène, ce qu'ils ont déjà du mal à faire dans la vie. Mais oui, je crois, ils parlent avec dans leurs IME, dans leurs ESAT, etc. Ils parlent de ce qu'ils font, ils transmettent à leur.
Et éventuellement, ils feraient bien des émules, quoi.
Ah oui, oui. Ouais. Ah oui, alors là...
Ça arrive à la fin des spectacles qu'on réveille des vocations. Ah oui, oui. Et moi, que plusieurs jeunes se disent, mais moi, je voudrais faire ça.
C'est une belle aventure.
Oui.
Belle aventure dont on va continuer de parler dans un instant sur l'antenne de Vivre FM, grâce à vous, Isabelle et Pascal Ponty, qui représentaient l'association La Clé de Phare. Une pause musicale.
La vie des associations, jusqu'à 11h sur Vivre FM.
Il ne nous reste, hélas, que quelques minutes pour parler de La Clé de Phare avec Isabelle et Pascal Ponty. Isabelle et Pascal, on le redit, hein, ça sera le 8 mai prochain. Là, ça arrive très vite. Ça va se passer à Chatou.
Oui.
Et qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on va entendre à Chatou? L'histoire d'un soldat, d'après l'œuvre de Stravinsky.
Oui.
C'est bien ça.
Oui.
Donc, cette jeune sur scène. C'est bien ça?
Oui, oui, il y a 7 jeunes sur scène, 4 encadrants et 4 musiciens. 3 musiciens classiques.
4 musiciens classiques.
Et
un percussionniste.
Voilà, c'est ça. Ah,
mais qu'on ne s'y trompe pas, il n'y aura que 3 à 4 musiciens classiques. Mais ce sera quand même du classique. Ce ne sera pas une œuvre, comment dirais-je, minorée.
Non, c'est pas une œuvre dénaturée. Non, c'est vraiment la partition pour trio de l'histoire du soldat de Stravinsky dans sa totalité qui sera donnée. Oui, tout à
Donc, le public amateur de musique classique, il faut absolument qu'il vienne, d'une part.
Ah oui, il s'y retrouve complètement.
Moi, je dirais même que c'est une œuvre majorée parce que c'est de la musique classique de qualité plus du spectacle vivant
Scène.
Voilà, c'est du spectacle vivant plus de la belle musique classique. C'est ça qui est le côté génial de ce spectacle, c'est qu'il a plusieurs dimensions extrêmement évocatrices, poétiques. Et de qualité.
Donc, amoureux de musique classique, il ne faut pas rater le rendez-vous.
Voilà.
Amoureux de spectacles vivants, comme vous le disiez, il ne faut surtout pas rater.
Voilà.
Et puis alors, ceux qui ne se savaient pas, peut-être, ou qui déjà se savaient, amoureux et de la musique classique et du spectacle vivant en même temps, il ne faut pas qu'ils se gênent.
Et en même temps, toutes les personnes porteuses de handicap qui voudraient voir aussi participer à un événement.
Sous-entendu, vous voyez, on peut aussi participer à de telles manifestations.
Oui, tout à fait.
Quand on est une personne handicapée, c'est ça aussi la richesse de ce spectacle.
Oui, c'est tout à fait ça.
Et puis c'est une leçon, une leçon dont on peut tous tirer des bienfaits. Mmh. Alors l'entrée est libre.
L'entrée est libre, la participation est libre. Donc.
Mais après c'est au chapeau, c'est comment ça se passe?
Après c'est au chapeau pour ceux qui souhaitent soutenir La Clé de Phare. Et évidemment, tout le monde se doute bien qu'il faut soutenir. Si c'est
évidemment,
possible.
Évidemment.
Voilà.
Ça sera donc précisément où vous avez l'adresse précise.
Alors donc c'est l'IPC de Chatou, donc l'Institut de Pédagogie Curative à Chatou, un IME, qui est 20 route de Maison. Si on vient en RER, c'est à 7-8 minutes à pied.
D'accord.
Est-ce que tu dirais plus?
Du RER de Chatou.
Du RER de Chatou, pardon.
D'accord. Il faut s'inscrire préalablement ou on peut arriver les mains dans les poches, j'allais dire, et puis. Avec des espèces sonnantes et trébuchantes, ce sera mieux dans les poches.
Oui. Et puis les oreilles grandes ouvertes.
Et les oreilles grandes ouvertes, évidemment.
Oui. On peut venir, de toute façon, oui, bien sûr. On conseille quand même de réserver parce que ça permet d'avoir une jauge pour la salle et de savoir à peu près le nombre de personnes qui seront là par rapport à la salle dont on dispose.
Justement, combien peut contenir la salle?
Une centaine de personnes.
Oui, c'est pas mal.
Oui, c'est pas
bien,
mal.
Déjà.
C'est pas mal.
Oui. Oui. Donc, réserver, vous avez une adresse
email,
de réservation.
Alors, le plus simple, c'est de le faire auprès de moi. Donc c'est isabelle.ponty, P-O-N-T-Y, @gmail.com.
Et en plus, c'est formidable parce que vous avez le nom d'un musicien, vous avez les noms de musiciens. Jean-Luc Ponty, c'était un joueur de violoncelle électrique, quelque chose comme ça, ou de violon électrique dans les années 80.
Violon jazz.
P-O-N-T-Y,
pas de rapport avec la famille,
mais
on va le cacher.
Voilà.
Moi, puisqu'on parle de nom, j'aimerais bien dire le nom des musiciens classiques qui nous accompagnent là, parce que c'est juste. Donc, en fait, il y a Hélène Bélanger au piano, il y a Gérald Kérodi au violon et il y a Sophie Godin à la clarinette. Et on les remercie vraiment, vraiment d'être là et de l'engagement parce que c'est un gros travail qu'ils font et qu'ils vont faire. Et voilà, on les remercie vraiment.
Donc, La Clé de Phare a besoin de public.
Oui.
De public généreux, en plus, si c'est possible.
Hein, oui, mais surtout nombreux.
Selon les moyens des uns et des autres. Nombreux, évidemment.
Oui.
Besoin de partenaires, j'imagine aussi, parce que, on le disait tout à l'heure, le fait de voir se rencontrer des musiciens classiques et des personnes handicapées intellectuelles, ça n'est pas si fréquent.
Non.
Donc, forcément, ça parle peu aux partenaires quand vous allez vers eux et que vous leur demandez éventuellement de l'aide, hein, de devenir des partenaires attitrés et le plus fidèle possible.
Voilà, alors,
c'est pas simple.
Oui, c'est vrai, il y a peu de partenaires attitrés, il y en a quelques-uns, mais il y en a peu. Par contre, il y a beaucoup de personnes bénévoles. pas mal dans l'art thérapie ou d'autres personnes chorégraphes, par exemple. Il y a pas mal de gens qui se joignent au projet, qui, en fonction de leurs possibilités, vont rester une année, deux années, partir, et peut-être une autre personne va les remplacer. Mais c'est vrai que là, par exemple, cette fois-ci, on a un jeune homme qui travaille dans un théâtre à Chatou et qui va être ingénieur lumière. Mmh. Pour nous. Voilà. Pour cette fois-ci.
Sympa.
Voilà. Il y a plein de rencontres comme ça. Voilà. Mmh.
Alors, l'année dernière, c'était les tableaux d'une exposition de Moussorski. Oui. Cette année, c'est l'histoire d'un soldat de Stravinsky.
Oui.
Est-ce que d'ores et déjà, vous avez pensé, Hélène Liévois a pensé, et les autres, à une nouvelle œuvre? Et comment vous choisissez vos œuvres? Est-ce que c'est dit, ça, ou est-ce que, comment ça se passe?
Alors, jusqu'à présent, c'est, je crois, plutôt, enfin, c'est Hélène qui les choisit, parce qu'en fait, elle en est à sa 8e œuvre à Havana. Nous, on est seulement à la 4e. Et pour l'année prochaine, à Havana, en tout cas, elle va monter le Lac des Cygnes, parce qu'elle a justement une personne chorégraphe qui l'a aidée dans ce projet. On est en train de se poser la question pour Chatou du prochain projet. Donc là, pour l'instant,
il se peut que ce ne soit pas le même projet.
Il se peut que ce ne soit pas le même projet.
Ouais. Voilà. Pourquoi? Parce que vous auriez des idées, d'autres idées, puis pourquoi pas à la limite faire que un jour, par exemple, le Lac des Cygnes qui s'est joué se jouera à Chatou, et puis un autre jour, on vous échangeriez les musiciens et les personnes handicapées intellectuelles,
oui,
non?
Oui, c'est possible aussi, ou ça c'est parce que les jeunes qui sont là peuvent avoir une demande différente, donc voilà, c'est en mutation, c'est quelque chose.
Un peu une affaire d'opportunité,
oui,
hein,
oui.
En fonction des bénévoles, des jeunes,
des musiciens, on imagine.
De la scène aussi, hein, pour de la danse, effectivement, il y a aussi une autre configuration
nécessaire.
À prévoir.
Ouais. Hein. Mmh.
On ne sait pas encore.
Qu'est-ce qu'on peut dire? Pardon, oui, Pascal, je vous ai peut-être interrompu.
Non, suspense, on ne sait pas encore pour l'an prochain.
D'accord, bon. Mystère 2, de toute façon, on va déjà s'occuper de cette année. Hein,
voilà.
Parce que il nous reste à voir ça. Donc, deux représentations, hein, le
Alors,
8 mai.
En fait, oui, il y en a deux pour le public, le dimanche 8 mai à 15h et à 18h. Hmm. Et en fait, après, le lendemain, au sein de l'établissement, il y a deux autres représentations qui sont faites. Et pour les jeunes de l'IME, et pour des scolaires de la ville de Chatou qui viendront se joindre au groupe, et aussi un CITL. Donc là, il y aura un public scolaire et
ça, c'est pas mal aussi,
oui,
que les enfants s'aperçoivent des choses.
Exactement.
Sachent que, il y a des choses qui sont possibles avec les uns et les autres.
Oui. Oui,
donc les enfants d'école de Chatou vont venir à l'IME, sans doute pour la première fois.
Voilà. Et voir nos jeunes, en action. Et en général, c'est très porteur. L'année dernière, en fait, c'était dans une école de Chatou, et on a fait le spectacle l'après-midi pour des adolescents de l'école, et après le spectacle, ils ont demandé eux-mêmes un temps de parole. Et ils ont demandé à parler et ils ont voulu échanger parce qu'ils étaient complètement étonnés de ce qu'ils avaient vu, et c'était évidemment pas l'image qu'ils avaient du handicap mental.
Ça va être très émouvant,
Puis pour les jeunes, nos jeunes étaient là, et du coup après ils se sont parlé entre eux. Donc ils interpellaient les jeunes qui étaient sur scène, et puis les autres répondaient, et ça a été un échange très très riche.
Encore un joli moment, et bien des jolis moments à partager. On le rappelle, il y en aura dimanche, dimanche 8 mai, à 15h, c'est ça?
15h.
Et à 18h.
Et 18h.
Oh, rappelez-nous simplement l'adresse de réservation.
Donc, isabelle.ponty@gmail.com.
Voilà. Et puis, on rappelle que c'était à l'IPC, Institut de pédagogie curative.
De Chatou.
On trouvera de toute façon tout ça sur Internet. Merci Isabelle Ponty, merci Pascal.
Et merci
Pascal, merci à vous
d'être venu nous parler de la clé de phare. Et bon spectacle à vous tous.
Et merci à Vivre FM.
Merci et à bientôt, à dimanche.
À dimanche.